Dominique, il est temps de passer à la deuxième partie, l'affaire suivante. Nous sommes, trois semaines et demie après la tragédie de Crans-Montana, le propriétaire français du Constellation Jacques-Moretti mis en cause pour négligence et sorti de prison vendredi soir. Un cap dans l'affaire, dans l'enquête, après 15 jours de détention. Une décision de la justice suisse qui scandalise les familles de victimes. Le récit de Pierre-Louis Bousset.
Jacques Moretti aura passé 14 jours en détention avant d'être remis en liberté. Décision insupportable pour les familles de victimes.
C'est un scandale qu'il soit libre, parce qu'il a toujours la possibilité de s'enfuir et de produire de faux documents d'identité.
La dernière étape d'une instruction contre laquelle des parties civiles et leurs avocats se sont montrés très critiques, notamment en pointant un risque de collusion entre les époux et propriétaires du bar Le Constellation, qui aurait pu avoir le temps de faire disparaître des preuves juste après l'incendie.
Pour une raison que les avocats des parties civiles n'expliquent pas, il n'y a pas eu de saisie de leur téléphone portable. Jacques et Jessica Moretti auraient pu éventuellement s'accorder sur une seule et même version. Ces téléphones portables, ils ont été saisis 4 jours plus tard, soit le 9 janvier dernier.
Les familles dénoncent également le peu d'autopsies réalisées après le drame et redoutent de devoir exhumer les corps de leurs proches pour les besoins de l'instruction.
Aujourd'hui, vu la colère des gens, il n'est pas possible de laisser les choses persister et prospérer ainsi. C'est pas possible. C'est humainement. C'est tout simplement, écoutez bien chaque mot que je vous dis, humainement, insupportable.
L'absence à ce jour de poursuite contre la commune de Crans-Montana scandalise également les plaignants. La ville, censée inspecter le bar tous les ans, n'avait pas contrôlé le Constellation depuis 2020.
Bonjour Maxime Ronstetter.
Bonjour.
Journaliste police justice de BFM TV. Vous revenez tout juste de Suisse, où vous suivez de près cette enquête 3 semaines et demie après la tragédie de Crans-Montana. Le général Daoust est toujours avec nous, ancien directeur de l'IRCGN, directeur du Centre de recherche de la Gendarmerie nationale, et Johanna Rosenblum. Bonjour Johanna.
Bonjour François.
Vous êtes psychologue, clinicienne et consultante de BFM TV. Bienvenue à tous les trois. Maxime, vous revenez de Suisse où la libération aussi prévu que redouté, notamment par les familles des victimes, est donc intervenu avant-hier soir. Et c'est un petit coup de tonnerre quand même, voire un tremblement de terre en Suisse.
Oui, c'est vrai que vous soulignez le paradoxe, c'est que tout le monde l'attendait. Tous les avocats ont sûrement préparé leurs clients en disant que ça allait arriver. Et c'est pas pour cela que quand il est sorti, personne n'a été choqué, voire secoué. Nous, on était devant la prison le jour où il a été libéré parce qu'on espérait pouvoir l'apercevoir. Il est parti sans qu'on le voie, sans doute par une porte dérobée. Il y a plusieurs portes de la prison, donc sans doute par une porte dérobée. Et dès qu'on a appris sa libération, on a commencé à l'annoncer sur BFM TV. On a vu, évidemment, plein de journalistes suisses arriver, mais on a vu aussi beaucoup de curieux, d'habitants de Sion, la ville où il était en prison, arriver pour voir, alors c'est vrai, il est sorti, etc. Ouais. Des habitants qui étaient tous aussi passablement énervés du fait qu'il sorte, même s'il n'avait rien à voir avec l'affaire. Donc, bref, c'est un événement qui a secoué à la fois les familles de victimes, mais je pense tout le canton du Valais au moins.
Mais la dimension psychologique, elle est capitale là, Johanna. Certaines familles disent en substance, mais je meurs une deuxième fois.
C'est exactement ça.
En voyant celui que je considère, attention, comme l'assassin d'une certaine manière de mon fils, de ma fille, être libéré alors qu'il a quelque part du sang sur les mains, qu'il est mis en cause pour négligence, psychologiquement, c'est quasi insoutenable.
Bah, merci de le souligner, de le dire aussi justement, François, parce que la justice peut être légalement, enfin, elle est légalement très juste.
Elle applique le droit.
On est dans un état de droit, il y a des règles, il y a des lois, elles sont appliquées, mais humainement extrêmement violentes. Et j'ai toujours des frissons quand j'entends des victimes ou des familles de victimes qui témoignent du désarroi, de leur colère, de l'effondrement que cela représente, de voir une personne qui, sous caution, peut être libérée et le soir aller donner à manger à ses enfants quand soi-même on a perdu son enfant brûlé vif. Et des avocats répondent, mais la justice fait son travail froidement. Il faut bien comprendre que la justice et les victimes ne parlent pas la même langue. Et oui, savoir qu'un potentiel responsable, même s'il est toujours présumé innocent, va pouvoir dormir chez lui, retrouver sa famille quand soi-même on vient d'enterrer son enfant qu'on a à peine pu reconnaître brûlé vif, c'est juste insoutenable.
Dominique.
Non, c'est très compliqué pour nous de commenter.
C'est très complexe.
Parce que Max était sur place, Maxime était sur place. Moi, j'étais en plateau, on était ensemble hein, d'ailleurs. Et nous, on peut parler que de justice. Si on parle de justice, si on fait des commentaires. Johanna peut parler de psychologie,
mais non,
de souffrance
mais
de la famille.
Mais non,
de...
pas du tout. Tu peux parler de justice en disant que la justice, elle respecte les règles d'un état de droit, mais qu'elle est d'une violence insoutenable.
Absolument.
Pour des...
Ça, c'est vrai.
Et c'est, il faut pouvoir le rajouter à chaque fois, même les avocats.
Johanna, la justice, elle dit, bon, c'est pas un assassinat. Monsieur Moretti n'a assassiné personne. Assassiner, c'est prémédité. Ça n'est pas un meurtre. Il n'a tué personne. Et la justice a des termes pour dire ça. On parle au maximum, pardon pour ce maximum, mais d'homicide involontaire. En France, on dirait ça. Là-bas, c'est
homicide par négligence.
Homicide par négligence.
4 ans et demi de prison maximum.
4 ans et demi de prison maximum, ça sera jamais assez pour les
victimes. Sachant que certaines peines peuvent s'additionner.
Mais la justice, elle doit poser un terme juridique sur la justice. Elle doit poser un terme juridique. Donc, et le fait que M. Moretti sorte de prison, la justice suisse en a décidé ainsi parce qu'elle a décidé qu'il n'y aurait plus maintenant qu'il n'y avait plus de risque de fuite, de collusion. Donc, mais on comprend pour les victimes, ce soit insupportable. Mais la justice fonctionne comme ça.
La justice fonctionne. L'enquête agit, en tout cas. Et l'enquête se poursuit. Certaines la dénoncent, notamment du côté des familles de victimes. Mais elle suit son cours. Elle avance assez rapidement. Vous avez révélé cette semaine, Maxime Bouet, le service police-justice de BFM TV, de nouvelles images, de nouvelles vidéos. Du moment où le bar s'embrase. Et tout va très vite, alors même que la soirée se passe, et au départ en tout cas, mais pendant de longues minutes, personne ne semble s'apercevoir de rien.
Oui, c'est cette vidéo. Alors, on avait déjà vu des vidéos du bar qui s'embrasait à l'intérieur, parce que tout le monde, beaucoup de personnes filmaient à ce moment-là. Mais cette vidéo, elle est un petit peu particulière parce que elle est particulière par le début. Vous voyez cette colonne de personnes qui tiennent des bouteilles avec des bougies de Bengale. Pourquoi je dis que c'est particulier? Parce qu'en fait, cette colonne de personnes qui amènent ces bouteilles, en fait, c'est les salariés, c'est les serveurs, c'est aussi Jessica Moretti qui, ce soir-là, on l'a lu dans des auditions auxquelles on a eu accès, avait leur plus gros envoi de bouteilles par le plus gros groupe de la soirée à ce moment-là. Ce gros groupe avait commandé une douzaine de bouteilles et à ce moment-là, ils rassemblent tout le monde, tous les salariés, ils disent, voilà, c'est maintenant, ils veulent leur douzaine de bouteilles, on a un show prévu, on met Jessica Moretti, dit, allez mettre les masques, vous voyez Sian Panin qui est sur les épaules de quelqu'un, ils ont tous des masques, ils allument les bougies et ils partent en colonne comme ça le long du bar, vous les voyez, et ils vont aller à droite, ils vont aller plus loin déposer ces bouteilles. Et quand le jeune homme qui fort heureusement est indemne, panote, il se rend compte que le feu a déjà pris.
Quand il
tourne la caméra, on voit que le feu a pris finalement au départ de leur cortège. Et pourquoi c'est extrêmement important? On a consulté l'audition d'une serveuse qui s'appelle Louise, qui aussi est indemne mais extrêmement traumatisée. Et elle dit, on a mis 30-35 secondes à se rendre compte que le feu avait pris. À ce moment-là, c'était trop tard. Elle le dit, j'ai pensé à passer derrière le bar, aller barman, prendre un seau d'eau et le jeter. C'était trop tard, c'était immaîtrisable. Et donc, ces 30-35 secondes, ce moment où tous les salariés du bar ne s'en rendent pas compte et qu'on voit aussi les jeunes autour qui, on les comprend, sont un peu stupéfaits et ne réagissent pas, ces 30-35 secondes qui auraient pu peut-être éviter le drame.
On est en direct avec Marc-Antoine, Dominique. Bonjour Marc-Antoine, merci d'être avec nous. Vous avez 14 ans et j'imagine que les images qui sont diffusées en ce moment à l'antenne font écho à ce que vous avez vécu, ou vous renvoient à ce que vous avez vécu le soir du Nouvel An. Vous n'étiez pas aux Constellations, vous étiez juste en face. Et alors vous êtes venu en aide à des victimes de la tragédie, vous et votre grande sœur aussi, puisqu'elle est étudiante en médecine. Elle a eu un comportement héroïque ce soir-là, elle a prodigué les premiers soins aux victimes. C'est la première fois, Marc-Antoine, que vous prenez la parole à la télévision française. Merci d'être avec nous dans l'affaire suivante. Pouvez-vous nous raconter ce qui s'est passé et comment, quel souvenir vous gardez de cette soirée horrible?
Alors, en fait, je me trouvais à Crans-Montana, sur la place centrale, en train de fêter le Nouvel An avec mes amis. C'était un Nouvel An joyeux, on fêtait comme on fête tous les Nouvel Ans. Et vers à peu près 1h du matin, le DJ annonce la fête est prolongée jusqu'à 1h15. Je pense qu'il a sauvé beaucoup de vies. Et parce que les gens souvent font la balançoire entre Allo Constellation d'abord, ensuite aller sur la place centrale pour minuit pile, et ensuite reviennent aux Constellations. Et moi, avec mon groupe d'amis, on décide de se diriger. Moi, j'étais censé rentrer chez moi pour 1h30, mais on se dit qu'on allait passer devant la Constellation. J'aurais peut-être appelé mes parents pour demander de rester un peu plus longtemps, 2h du matin peut-être, et puis de m'amuser un peu plus. Et lorsque j'arrive devant la Constellation, je vois un ami de mon cousin. Je discute avec l'ami de mon cousin. Et d'un coup, tout va très vite. Le vigile sort et dit de s'écarter des escaliers. Et puis ensuite, il part. Il part, je pense, pour aller aider les victimes. Et là, on voit une foule de personnes arriver, ouvrir la porte avec des cris de panique, des hurlements. Et des gens s'entassaient sur l'entrée. C'est à ce moment-là que, avec mon ami Nicolas, on ne réfléchit pas. Moi, j'étais avec des béquilles, parce que je suis blessé à la cheville. Mais à ce moment-là, je pose mes béquilles. Et puis, bah, je pars rapidement pour aller aider les victimes. Avec l'aide de 5 personnes à peu près, on réussit à ouvrir la fenêtre. Et c'est à ce moment-là qu'on commence à sortir le maximum de corps qu'on pouvait, sans se rendre compte du danger que nous aussi on encourait avec la fumée toxique qu'il y avait. Pour savoir, en fait, c'était juste impossible d'aller plus loin que la fenêtre, parce que la fumée était juste irrespirable. Donc on sortait le maximum de victimes qu'on pouvait. Certaines s'écroulaient lorsqu'on les sortait. Et c'est là que le bar 1900, qui se trouve en face du Constellation, a eu vraiment cette initiative forte de nous dire de ramener tous ces blessés jusqu'à leur bar. Donc on faisait vraiment cette navette entre ça. Puis après à peu près 5 minutes, je pense qu'on avait sorti beaucoup de victimes, les pompiers et les policiers en train de boucler le secteur. Et puis c'était notre moment d'évacuer parce que nous on pouvait plus rien faire et c'était vraiment aux pompiers d'agir.
Ce feu que vous voyez, Marc-Antoine, vous le voyez depuis l'extérieur, depuis la place, il est passé du sous-sol du Constellation à l'étage. Est-ce que vous avez le souvenir de voir des flammes progressives, même si c'est assez rapide, ou est-ce que c'est un embrasement général d'un seul coup ?
Je pense que c'est un embrasement général. Nous, on n'a pas vu les flammes arriver. Je pense que c'est le vigile qui s'est posé une question, qui s'est dit « mais pourquoi il y a beaucoup de gens qui montent comme ça ?» Et là, il s'est rendu compte. Mais en fait, c'est vraiment ce... Moi, j'ai pas vraiment de souvenirs. Pas de bruit d'explosion, rien. Mais vraiment ce souffle de feu qui sort des vitres. Et puis qui prend vraiment tout ça. Et c'est une confusion. Lorsque j'aidais déjà les gens, je me rendais pas compte de ce qui s'était passé. Pour moi, j'aidais juste. Je voyais des gens brûler, mais je me rendais pas compte de ce qui s'était passé.
3 semaines après, Marc-Antoine, comment vous avez vu la description de l'horreur à laquelle vous avez assisté ?
Pour moi, c'est un chaos. Il n'y a pas d'autre définition, pas d'autres mots. Et personne, je pense, ne sait comment il aurait réagi pour des personnes qui n'ont pas vécu ce drame. C'est pour ça qu'on ne peut pas critiquer des personnes qui n'ont pas aidé et même les jeunes à l'intérieur du Constellation. Le feu s'est propagé tellement rapidement, tellement... C'est une scène de chaos avec mélangé à des cris, des hurlements, des pleurs, de la détresse, beaucoup de détresse dans les regards aussi des personnes qu'on aidait. Quand certaines personnes, l'autre nous regardait dans les yeux pour nous dire aide-moi moi en fait. Et en fait, c'est vraiment beaucoup de détresse et c'était un cauchemar.
Merci Marc-Antoine. Merci d'avoir pris ces quelques minutes pour témoigner en direct sur BFM TV dans la verse suivante. Il faut aussi qu'on aborde un point, Dominique, 3 semaines et demie après la tragédie, parce que c'est l'objet même d'une polémique en Suisse, en Italie aussi. On sera avec un journaliste italien dans quelques toutes petites secondes. C'est la polémique autour, Maxime, des autopsies ou de l'absence d'autopsie d'un certain nombre de corps de victimes depuis l'incendie du Nouvel An.
L'absence, j'ai envie de vous dire qu'il n'y a presque pas eu d'autopsie. D'après nos informations, alors au 14 janvier, mes informations s'arrêtent là, au 14 janvier, sur les 40 victimes, il n'y avait eu que 2 autopsies qui ont été ordonnées par la justice suisse. Et encore, ces autopsies, elles ont été ordonnées à la demande de la famille via leurs avocats. Et les 2 ont été ordonnées le 13 janvier. Pour l'anecdote, les 2 enfants étaient enterrés le 14 janvier.
2 citoyens italiens, français,
suisses. 2 Suisses.
Deux
Suisses qui étaient enterrés le 14 janvier. La famille demandait à ce qu'ils soient autopsiés avant d'être enterrés. Ça a été validé le 13 janvier. On ne sait pas pourquoi le ministère public, la justice suisse, considère qu'il n'y a pas besoin de faire d'autopsie, ce qui scandalise forcément beaucoup de personnes et inquiète beaucoup d'avocats de partie civile qui connaissent un petit peu l'affaire parce qu'ils se disent là aujourd'hui les familles elles ne vont pas bien, elles sont effondrées, mais peut-être qu'un jour elles auront besoin de savoir qu'est-ce qui est arrivé à leur enfant.
Pourquoi est-ce que ces autopsies elles sont indispensables?
Alors il y a les catastrophes.
Même si on est sûr tout que fait. Le corps qu'on a sous les yeux est bien celui de oui. X.
Là, je pense qu'on est face à un phénomène qui a été celui, il est arrivé une catastrophe et un incendie majeur. Donc, le ministère public a dit, on sait de quoi ils sont morts, c'est à cause de l'incendie. Alors que nous ne sommes pas dans un crash d'avion, nous ne sommes pas dans un accident ferroviaire, etc. Là, la nécessité, c'est de savoir, un, où étaient les corps qui ont été retrouvés, où est-ce qu'ils étaient placés, est-ce qu'ils étaient contre les petites sorties de secours qui étaient fermées ou obstruées, est-ce qu'ils étaient près du bar ou ailleurs, et ça permet de savoir pour chaque victime de quoi elle est réellement morte. Est-ce qu'elle a été morte écrasée par la foule qui se pressait? Est-ce qu'elle est morte des fumées? Ça, on le saura dans les poumons. Si les poumons sont roses, c'est que la personne était morte avant.
Mais c'est essentiel pour les familles.
Mais c'est essentiel.
Essentiel pour les familles.
Mais c'est essentiel pour l'enquête.
Ouais, aussi.
C'est-à-dire que la scène de la scène de crime, parce qu'on peut pas appeler ça autrement, c'est une scène d'infraction. Eh bien, ça permet de resituer toutes les victimes dans les lieux et de savoir, selon le lieu, de quoi exactement elles sont mortes. Et ça, ils ont été focalisés sur l'identification et je pense qu'ils ont oublié ce volet-là qui était celui de l'instruction.
On peut en parler aussi avec Francesco Leone. Bonjour, vous êtes journaliste italien. Bonjour. De l'émission Fuori dal Coro sur Mediaset. Vous revenez vous aussi de Grand-Montana et alors cette polémique autour de l'absence d'autopsie suscite énormément d'émotions chez vous en Italie. 6 des victimes de Grand-Montana sont italiennes. Et alors entre le défunt italien exhumé, des victimes dont les corps ont été examinés très tardivement ou pas du tout. Tout cela interroge énormément à Grand-Montana d'où vous revenez et en Italie où vous habitez.
Et oui, mais je crois que c'est nécessaire ce qu'il a dit, monsieur, sur l'autopsie. Et ce que je peux dire après avoir travaillé comme journaliste, après les enquêtes journalistiques que nous avons menées avec Fuori dal Coro, c'est qu'il est évident que les questions sur cette affaire sont nombreuses. Et des autopsies ont été pratiquées ici à Milan, en Italie, y compris sur des victimes toutefois italiennes, et parfois après les funérailles de ces jeunes. Et donc, il s'agit d'examens fondamentaux pour établir la vérité, les responsabilités, des examens qui peuvent apporter une réponse supplémentaire sur le déroulement de la tragédie et qui, je pense, seront également utiles dans le cadre de la procédure judiciaire. Et, bien sûr, d'après ce que nous lisons chaque jour dans les journaux sur la tragédie de Grand-Montana, d'après les interviews que nous avons réalisées, il ressort qu'il existe une certaine perplexité. Quant à la manière dont les autopsies ont été menées dans le cadre de l'enquête des magistrats valaisans, nous avons lu que certains avocats ont vivement critiqué la manière dont certains examens ont été menés, examens qui auraient pu être effectués en Suisse et en temps utile. Et plusieurs polémiques ont émergé autour de cette affaire, notamment celle concernant les retards, oui, bien sûr, la manière dont une partie de l'enquête a été menée, les contrôles qui ne sont pas effectués sur les constellations, et nous verrons si les informations supplémentaires seront communiquées dans les prochaines semaines. Il est clair qu'une polémique a éclaté.
Merci Francesco Leone, merci d'être intervenu dans l'affaire suivante. Évidemment, on continue à suivre de près l'enquête sur la tragédie de Grand-Montana, qui, je le rappelle, a fait 40 morts et 116 blessés. Oui. Le bilan est absolument terrible.
Bien sûr, ça nous rappelle les pires heures de l'histoire en France. On se souvient du 5-7, on pensait que tout ça n'existerait plus jamais.